Bonjour à tous, c'est l'heure de l'EM, l'émission sur Transistor. Et en première partie de l'EM, nous irons à Carhaix avec les élèves de l'IME de Quérampuil. Et en deuxième partie de l'EM, nous retrouvons Tristan et l'émission Sonar.
L'EM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Pour cette première partie de l'EM, nous prenons la direction de Carhaix et de l'IME de Quérampuil. Depuis le début de l'année, les élèves font de la radio et des émissions. Les élèves réalisent leur émission de A à Z en préparant les interviews, en posant les questions et aussi en animant l'émission. Et pour cette nouvelle émission, les élèves ont souhaité aborder la question de l'engagement, qu'il soit bénévole ou professionnel. Et pour cela, ils ont interviewé Patrice Dupont, sapeur-pompier professionnel à Carhaix, et Sonia Le Goëlec, bénévole au Vieille Charrue. On retrouve tout de suite les élèves de Céline Masson à l'IME de Quérampuil.
Bonjour, bienvenue sur Transistor sur le 100.4 FM.
Vous êtes avec Jordan, Lorenzo, Jimmy, Mary, Vanessa, Libby, Melissa, Kylian et Léa. Nous allons interroger dans notre émission un pompier dont c'est le métier et un bénévole des Vieilles Charrues.
Leur point commun, c'est l'engagement et tout cela à Carhaix. Débutons tout de suite notre émission par une rencontre avec Patrice Dupont.
Bonjour, nous voici à la quinzaine des pompiers de Carhaix. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, en quelques mots, je m'appelle Patrice Dupont, j'habite à Quimper, j'ai 53 ans encore pour quelques jours, et j'ai 3 enfants, et je suis pompier depuis 1987. Je suis rentré pompier volontaire à l'âge de 16 ans, ensuite je suis passé professionnel en 1995, et voilà, j'ai fait différentes casernes, d'abord en région parisienne, dans les Yvelines, et puis plusieurs casernes du Finistère.
Quelle est la différence entre un pompier volontaire et un pompier professionnel ?
Alors, la principale différence, c'est vraiment une question purement administrative de statut. Moi, je suis fonctionnaire, les professionnels, du coup, sont des fonctionnaires à part entière, fonctionnaires territoriaux. Comme la direction des routes, comme les autres services du conseil départemental. Même si on a une double tutelle, puisque nos textes de référence, eux, viennent du ministère de l'Intérieur, mais ils sont appliqués et financés par le conseil départemental d'incendie et de secours.
Qu'est-ce qui se passe si on appelle le 18 ?
Alors, si on appelle le 18, il y a un opérateur qui physiquement est dans une salle de régulation à Quimper. Et je vous le précise parce que c'est pour ça que si vous appelez les secours, il faut être vraiment très précis sur l'adresse où vous êtes, parce que le pompier ne va pas deviner dans quelle ville vous êtes. Par contre, pour vous rassurer, le pompier qui va vous répondre, il va vous guider et vous questionner sur la situation, l'endroit où vous êtes, et peut-être même vous donner des consignes sur ce qu'il faut réaliser pour porter secours ou éviter que la situation s'aggrave. Donc voilà, il y a un pompier qui vous répond. Et en fonction de ce que vous allez décrire comme situation, il va choisir les pompiers les plus adaptés, les véhicules les plus proches de vous, et il va vous envoyer les secours. Alors, lorsqu'on parle de secours à victime, alors si vous appelez pour un feu ça c'est ou un accident de la route, c'est un domaine exclusif, mais dès lors où il y a des victimes, une régulation, c'est-à-dire c'est un échange téléphonique qui se fait avec le SAMU. Le SAMU, où là on a un médecin qui fait de la régulation médicale et qui décide si, en plus de l'intervention des pompiers, il faut un appui d'un moyen médicalisé.
Combien avez-vous de véhicules ? Combien de personnes travaillent à la quinzaine et que font-elles ?
Alors les véhicules, je vais aller dans l'ordre, on a deux petites voitures de liaison qu'on appelle des vélus parce qu'elles sont légères et à toute utilité, si tu veux, qui nous servent à aller faire des courses, à partir en stage, etc. On a une VLHR, donc qui est un véhicule hors route qui nous sert à aller dans les chemins s'il y a un feu de forêt ou s'il faut faire une reconnaissance sur un chemin en terre qui n'est pas goudronné. On a ce qui va avec, c'est un camion feu de forêt qui permet d'intervenir sur les feux de forêt. On a une grosse citerne que vous avez vu, un gros camion citerne que vous avez dû voir à côté Laurent a dû vous montrer, qui nous sert en appui pour avoir de l'eau sur les endroits où il n'y a pas de poteau d'incendie et pas de zone où on pourrait utiliser de l'eau. On a un fourgon qui nous sert à la fois pour l'incendie et à la fois pour le secours routier. On a deux ambulances, alors très importantes parce que c'est celles qui nous servent le plus. Hein. Et on a un véhicule tout usage qui peut servir aussi bien à aller récupérer un chien blessé qui a asséché une cave inondée, qui a tronçonné un arbre qui est tombé sur la voie publique. Voilà. Et on a la fameuse grande échelle que vous avez dû voir, hein, que Myriam d'ailleurs travaillait avec quand vous étiez là. Donc si j'en ai pas oublié, je suis à 10 je crois de mémoire, donc voilà, on a 10 engins. Et ensuite pour le personnel, on est 4 sapeurs-pompiers professionnels plus le chef de centre. Alors 5 maintenant, on est 5 pompiers professionnels, c'est bien, il y a un collègue qui vient d'arriver. On est 5 pompiers professionnels plus le chef de centre, le boss. Et je crois que c'est 50 pompiers volontaires, ouais. À la louche, entre 50 et 60 pompiers volontaires. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est en moyenne 4 par jour ici, physiquement, en journée, de 8h à 19h. De 7h à 19h, pardon. Et ce qu'on fait le matin, c'est qu'on commence par vérifier le matériel. Donc, tous les jours, il y a au moins 2 camions qui sont vérifiés pour voir s'il y a de l'essence, si ça démarre, s'il n'y a pas une ampoule de grillée, si tout le matériel fonctionne bien, s'il y a bien de l'eau dans le camion qui doit éteindre les feux. Voilà. Ensuite, à l'issue de ça, on boit un petit café et on fait le sport et la manœuvre. Donc la manœuvre, c'est la révision, en fait, soit de textes théoriques, soit ça peut être du massage cardiaque, ça peut établir une lance pour éteindre un feu, ça peut être quelle est la procédure pour intervenir sur une fuite de gaz. Voilà, il y a plein de domaines chez nous, donc c'est bien, il y a plein de choses à revoir. Donc tous les jours, on essaie de faire ça. Ensuite vient l'heure du repas, où on s'arrête pendant 2 heures. Et on reprend ensuite l'après-midi. Chacun travaille dans les services. Donc il y a un service qui s'occupe de l'entretien du matériel et des engins. Donc vérifier que le contrôle technique a bien été fait. Voilà, s'il y a quelque chose de desserré, ils sortent les outils, ils réparent ça. Il y a le service commande. Pour les consommables de l'ambulance aussi, donc il faut vérifier qu'on manque de rien pour les ambulances comme matériel. Il y a un service qui s'occupe de l'habillement, parce que les pompiers peuvent déchirer ou perdre leurs vêtements, il y a un service qui s'occupe de gérer ça, donc, ces vêtements. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un service formation qui planifie justement les formations, les stages, etc., les demandes de formation. Et il y a un service qui gère aussi le planning tout court de garde pour être sûr qu'il y ait bien 4 pompiers par jour ici. Bah, il y a un service qui s'occupe de prendre toutes les disponibilités des agents et ensuite qui établit un tour de garde. Et voilà. Et le dernier service s'occupe de la prévision opération, notamment s'il y a des routes barrées, s'il y a des poteaux d'incendie qui sont indisponibles. Voilà, on fait circuler l'information entre nous.
Quelles sont les interventions que font les pompiers ?
Eh ben, principalement, on peut dire presque à hauteur de 80%, c'est du secours à victimes. Donc ça peut être vous quand vous tombez dans la cour d'école ou si vous n'avez pas déjeuné le matin et puis que vous êtes à jeun et puis que sur les coups de midi vous vous sentez complètement faible et que vous faites un petit malaise parce que vous manquez de sucre ou parce qu'il y a eu un petit accident de la route devant votre école et que quelqu'un s'est fait renverser par exemple. Voilà, c'est ça notre activité, ou parce que vous êtes inquiété, vous baladiez en famille et vous avez vu quelqu'un allongé dans la rue et qui semble ne pas aller bien et vous nous appelez. Bon ben voilà, c'est principalement ça qu'on fait. Et à hauteur de 10%, on fait de l'incendie. Carré, on est un petit peu au-dessus de la moyenne départementale d'ailleurs, parce que c'est un petit peu moins dans les autres centres. C'est les fourgons d'incendie, soit pour des feux de végétation, alors que ce soit avec le CCF, le camion feu de forêt ou notre camion d'incendie en urbain. Ça peut être les odeurs de gaz, des feux de chambre, feux de... Alors ici, il y a aussi des fermes, donc la feu dans les fermes. Et puis ce même engin-là intervient sur le secours routier. Alors on en fait, pas tant que ça, mais on en fait un petit peu du secours routier. Et enfin, le dernier véhicule qui sort assez régulièrement aussi, c'est le véhicule tout usage, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut servir aussi bien pour les animaux blessés que les fuites d'eau, etc. Mais qui sert aussi si on doit, en appui de l'ambulance, si on doit rentrer chez quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles depuis plusieurs jours, donc on peut penser qu'elle est tombée chez elle et qu'elle n'arrive pas à se relever ni à déclencher une alerte. Tout est fermé, donc il va bien falloir rentrer. Et donc c'est ce véhicule-là qu'on utilise pour forcer les portes, mettre une échelle et puis rentrer par une fenêtre. Donc voilà. Mais principalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la mission des pompiers, alors qu'on pense souvent au feu, et c'est ce qui nous caractérise le plus, mais ce que l'on fait vraiment le plus, c'est l'ambulance. C'est le secours à victime.
Quelle différence de mission entre les pompiers, les ambulances et le SAMU ?
Alors, les ambulances des pompiers, on a un domaine d'exclusivité dans les lieux publics et la voie publique. Les ambulances privées peuvent intervenir pour les mêmes missions exactement que nous, mais à la demande du SAMU, si c'est dans un lieu protégé comme votre domicile. Mais en général, dans tous les lieux publics, ce sont les pompiers, et dans les lieux privés, c'est plutôt les ambulanciers privés. Le SAMU, alors le SAMU, en fait, c'est le SAMU, ça veut dire service d'aide médicale urgente. Le SAMU, c'est le central téléphonique. Et ensuite, de ce central téléphonique qui est départemental, qui est à Brest, à l'hôpital de la Cavale-Blanche, il y a ensuite plusieurs petites voitures qu'on appelle des SMUR, des services mobiles d'urgence et de réanimation, avec à bord un médecin, du matériel médical. Et eux, il y en a dans plusieurs hôpitaux du département. Et notamment, vous en avez à Brest, à Morlaix, à Quimper, à Carhaix. Et donc, cette petite voiture médicale peut venir en appui aussi bien d'une ambulance privée que d'une ambulance de pompiers. Pour les cas les plus graves, nous, on passe un message radio et on demande l'appui de ce SMUR. Et on le demande au SAMU, parce que c'est le SAMU qui reste le régulateur de tous les moyens, qu'ils soient pompiers, privés ou les leurs. Hein, y compris faire décoller leur hélicoptère, puisqu'ils ont un hélicoptère. Donc il y a leur hélicoptère, qu'on appelle Tonnerre, Tonnerre 29, et il y a aussi l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 29, auquel ils peuvent aussi faire appel.
Y a-t-il beaucoup de crises cardiaques ?
Alors, j'aurais pas de chiffres à te donner. Est-ce qu'on en fait régulièrement des arrêts cardiaques ? On en fait quand même régulièrement, oui, forcément plusieurs fois par an. Je saurais même pas te dire avec quelle occurrence. Ça peut être peut-être une semaine, il va y en avoir trois, une semaine, il va y en avoir un, une semaine, il n'y en aura pas du tout. C'est rare quand même qu'il se passe un mois sans qu'on intervienne pour un arrêt cardiaque. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez fréquent. Dans notre métier, voilà, on sait que dans l'année, on va le rencontrer.
Avez-vous souvent des faux appels et des canulars téléphoniques ? Et qui se passe-t-il quand on fait un canular ?
Alors, ça arrive, pas tant que ça. Alors pourquoi ça arrive pas tant que ça ? Bah parce qu'en fait, nous, il faut savoir quand les gens nous appellent. Alors il n'y a plus trop de cabines téléphoniques, mais c'était même le cas avec les cabines téléphoniques. Mais votre numéro de téléphone, en fait, il s'affiche. Donc on a vos coordonnées. Pourquoi on les a ? On pense pas au canular, mais c'est que si jamais vous êtes plus en état de nous répondre, au moins avec ce numéro-là, on peut vous rappeler pour savoir ce qui se passe et si vous avez vraiment besoin de nous. Ça peut arriver, les canulars. Hein. Il faut savoir que si c'est de manière répétitive, et qu'on arrive à identifier, il y a un dépôt de plainte, et puis les gens sont identifiés, et ils peuvent être condamnés, parce qu'ils utilisent abusivement un service public qui est déjà parfois saturé, débordé, où il y a beaucoup d'appels. Donc il faut que les gens qui fassent ça, il faut qu'ils sachent qu'on peut les retrouver assez facilement en plus. Hein. On peut les tracer assez facilement.
Avez-vous déjà sauvé des vies ?
Alors, je sais pas. J'y ai participé avec mon équipe et avec l'appui souvent d'un SMUR. Et je ne sais pas si à terme, j'ai pu les sauver très très longtemps. Parce que même lorsqu'on fait une réanimation cardiaque, même si les gens, leur cœur redémarre, après ils sont hospitalisés pour que tout ça soit stabilisé. Et nous, on a rarement des nouvelles de ce qui se passe après. Alors, je me plais à croire que parfois j'ai contribué à aider des gens à aller mieux, mais je ne sais pas vraiment si c'était le cas. Et bon, le plus important, c'est de faire de son mieux. Après, peu importe le résultat, si on sait qu'on a fait de son mieux, bah, y a des gens peut-être qui s'en sont sortis, d'autres qui ne s'en sont pas sortis.
Comment gérez-vous vos émotions en tant que pompier ?
Alors, comment on gère les émotions ? La première chose, ça passe par la préparation. Si on veut pouvoir gérer en intervention ces émotions, et ben en fait, il faut d'abord, c'est pour ça que tous les jours, je te disais qu'on s'entraîne, il faut répéter les choses. Le fait de les répéter, on est moins submergé par l'émotion quand on est confronté à la situation. Mais malgré tout, on a beau s'y être préparé, chaque situation est différente, et puis il y a le facteur humain dans cette affaire-là. Donc bien sûr qu'on peut être débordé au niveau émotionnel. Alors comment on gère ça après ? Déjà, dans nos formations, on nous habitue à repérer dans nos comportements ou ceux de nos collègues si jamais on est pris par les émotions et comment on peut essayer de réguler ça par les techniques. Donc le fait d'en parler déjà, c'est beaucoup. Et puis après intervention, au sein du SDIS-29, on a des cellules d'aide qu'on peut appeler pour faire des débriefings ou pour dire qu'on ne va pas bien parce qu'on y repense et qu'on a beau en parler avec nos collègues. Parce que ça, c'est la première chose, c'est d'en parler avec ses collègues pour laisser sortir un peu les émotions. Et si ce n'est pas suffisant, on peut se tourner vers des cellules d'écoute, en fait, qui nous aident un peu à digérer ça.
Quelle est la formation des pompiers et combien de temps elle dure ?
Alors, elle dure, pour les pompiers professionnels, 4 mois. Et pour les pompiers volontaires, elle dure, donc il y a 15 jours le SWAP, il y a 9 jours d'incendie. Il y a le divers, c'est sur une semaine, et j'ai oublié, le secours routier, c'est encore sur une autre semaine. Mais allez, c'est entre 6 et 7 semaines. Pour la formation de base, hein, parce qu'après, il y a les formations d'avancement et de montée en compétences ou de spécialité. Et là, donc, ce sont encore des semaines qui viennent se rajouter.
Et avez-vous déjà fait une formation de pompier de mer ?
Oui, alors moi, avant d'être à Carhaix, j'étais à Quimper, Concarneau et Brest. Et donc, lorsque j'étais à Quimper et Concarneau, j'étais plongeur. Donc, on a deux types de formations liées à la mer chez les pompiers. Il y a les sauveteurs aquatiques, qui eux vont sur des bateaux semi-rigides, des zodiacs, si ça vous parle. Ils vont sur des zodiacs et ils peuvent intervenir avec leur combinaison et un peu de matériel sur des victimes qui seraient en détresse, mais en surface de l'eau. Donc ça, c'est des sauveteurs côtiers. Et ensuite, on a une deuxième spécialité, les scaphandriers autonomes légers. Donc eux, par contre, ils interviennent si, bah, malheureusement, les premiers n'ont pas été assez rapides et que la victime elle a coulé au fond. Et ben, eux, ils viennent ensuite avec des bouteilles et ils plongent au fond de l'eau pour aller chercher la personne. Mais des fois, ce n'est pas des personnes. Hein. Des fois, ça peut être un objet qui entrave l'hélice d'un bateau. Enfin, voilà, ça peut être diverses missions ou des recherches de corps sur réquisition, de corps ou de matériel lié à un crime. Hein, sur réquisition, on peut nous dire de fouiller une zone pour rechercher une arme, par exemple.
Faut-il être musclé pour être pompier ?
Oui, mais pas trop, parce qu'il faut avoir des muscles qu'on est capable de mobiliser, parce que si on est trop musclé, trop lourd et qu'on n'arrive pas à se bouger, bah, c'est pas trop intéressant non plus. Mais oui, il faut être en capacité de pouvoir soulever quand même à plusieurs une victime pour la brancarder. Il faut être en capacité quand même de tenir une échelle à coulisses, voilà, de la manipuler aussi. Donc faut porter des sacs, porter des tuyaux, donc faut un minimum quand même. Des muscles et puis un cœur qui fonctionne pas trop mal aussi pour gérer l'effort.
Faut-il une taille minimum pour être pompier ?
Alors, c'était encore vrai il y a quelques années et il n'y en a plus de données et je vais vous expliquer l'histoire de pourquoi il n'y en a plus de données parce que il y a une... Comme maintenant, c'est l'Union Européenne, en fait, quelqu'un qui était pompier dans l'Union Européenne peut faire un dossier pour devenir pompier en France. Et donc, ça a été le cas d'une personne qui avait des compétences dans un autre pays européen en tant que pompier qui a voulu rentrer en France et à qui on a dit non parce qu'elle n'avait pas la taille requise. Et elle a envoyé ça au tribunal administratif en disant que c'était de la discrimination. parce qu'elle a demandé à ce qu'on lui produise toutes les choses qu'on demande physiquement à un pompier de faire. Et elle a démontré qu'elle était en capacité de le faire. Et que donc, du coup, c'est discriminant qu'on la refuse à cause de sa taille, puisque malgré sa taille, elle arrivait malgré tout à faire les missions. Donc, pour les pompiers civils, il n'y a plus de taille.
Et c'est que vous travaillez plus de jour que de nuit?
Parce que j'ai envie de dire que les pompiers volontaires travaillent plus la nuit, eux, parce qu'ils viennent après leur travail. Et ensuite, parmi les pompiers professionnels, il y a deux situations complètement différentes. Il y a les pompiers comme moi aujourd'hui, où je ne fais que des journées, donc je ne travaille plus du tout la nuit. Et les pompiers qui sont dans les plus gros centres de secours, où ils travaillent en garde de 24 heures, et eux, bah forcément, 24 heures, ils font autant de jours que de nuit.
Travaillez-vous les week-ends, et qu'est-ce qu'une astreinte ?
Alors là, encore une fois, c'est la situation, elle est différente en différents coins du département. Les pompiers, dans les gros centres mixtes, ils travaillent aussi bien les week-ends que la semaine. Nous, le fonctionnement de Carré est différent. Les pompiers professionnels ne font que la journée, sans faire de week-end, que la journée et en semaine. Et les pompiers volontaires font tous les fériés, tous les week-ends et toutes les nuits. Ensuite, qu'est-ce que l'astreinte ? L'astreinte, en fait, c'est lorsqu'on n'est pas présent physiquement dans la caserne, mais qu'on est à son domicile avec un bip, un récepteur. Et s'il y a une grosse intervention ou lorsque c'est le week-end, eh ben, l'alerte est déclenchée lorsque vous appelez le 18. Quand il déclenche les secours de la caserne, ben, en fait, ça atterrit directement sur des bips. Et donc, les collègues volontaires viennent de chez eux, ici, se changer, prendre le camion et partir en intervention. L'astreinte, c'est ça.
Et êtes-vous appelé pendant vos congés ?
Non.
D'où vient votre vocation ?
Moi, c'est une histoire un petit peu banale parce que mon père était pompier. Donc, j'ai baigné dedans. J'allais aux arbres de Noël, j'allais visiter la caserne. Et puis, bon, comme tous les enfants, ou beaucoup d'enfants, pas tous les enfants, ça serait réducteur, mais beaucoup d'enfants, bah, quand on ne veut pas être policier, en général, on veut être pompier. Mais donc, moi, voilà, c'était pompier. Après, j'ai pendant très longtemps voulu faire autre chose en me disant « fais pas comme papa ». Et puis j'ai essayé un autre métier, et puis au final, comme j'étais pompier volontaire à côté, j'ai fait mon choix, et je suis revenu chez les pompiers.
Question piège, combien de pompiers y a-t-il dans toute la France ?
Non, c'est pas trop piège. Alors, je sais pas si on n'est pas 220 000 en tout, et on est 20 000 professionnels, je crois que c'est quelque chose comme ça.
Merci d'avoir répondu à nos questions, vous êtes les meilleurs, merci de nous sauver la vie.
Au revoir.
Vous êtes de retour en studio avec nous et avec Sonia bénévole au Vieux Charrues.
Commençons l'interview avec notre invité. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Oui, bonjour. Donc, je suis Sonia Le Gouellec. Je suis éducatrice spécialisée à l'IME de Carré et je suis également bénévole aux Vieilles Charrues, au Festival des Vieilles Charrues.
C'est quoi les Vieilles Charrues ?
Alors, en fait, les Vieilles Charrues, c'est une association qui organise donc un festival de musique pendant 4 jours sur le site de Quérempuile à Carré.
Est-ce que tu connais l'histoire des Vieilles Charrues et pourquoi elles s'appellent ainsi ?
En fait, en 92, il y a donc une bande de copains qui avaient envie de faire la fête, donc à la fin de l'année, un petit peu comme une kermesse, à Landelot. Au début, en fait, les Vieilles Charrues ont commencé à Landelot. Et puis ensuite, comme le festival a grandi, eh bien, il n'y avait plus forcément de place à Landelot pour accueillir tout le public. Et donc, ils ont décidé de venir à Carré en 98.
Peux-tu nous présenter ta vision des Vieilles Charrues ?
Alors, je trouve que les Vieilles Charrues, voilà, c'est un festival pour tous les publics. Il y a toutes les personnes, des enfants, des ados, des jeunes adultes, des personnes âgées. On accueille aussi des personnes en situation de handicap. Et puis, les Vieilles Charrues aussi, c'est c'est en Centre-Bretagne. Et il n'y avait pas forcément beaucoup de choses en Centre-Bretagne à l'époque où ça a commencé. Et donc, c'était important pour les Vieilles Charrues qu'ils s'implantent dans le Centre-Bretagne. Et puis les Vieilles Charrues aussi, ça soutient l'économie locale et ça dynamise les commerces en fait. Y a beaucoup de monde, donc ça apporte beaucoup d'argent aussi. Donc je trouve ça intéressant. Et puis il y a aussi des emplois qui sont créés. Et puis, on accueille aussi beaucoup de... d'artistes, en fait, que ce soit des artistes internationaux, des artistes locaux et je trouve qu'il y a une diversité culturelle, donc voilà, pour tout ça c'est super, les vieilles charrues.
Depuis combien de temps es-tu bénévole et pourquoi?
Alors je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'était aux alentours de 2011. Parce qu'en fait je trouve que c'est important de donner un petit peu de son temps libre pour une bonne cause en fait qui nous tient à cœur. Et puis je suis bénévole à l'association de l'IME, et puis en tant que bénévole on récolte un petit peu de l'argent, et cet argent elle sert pour des activités pour les jeunes de l'IME.
Quelles sont les missions que peut faire un bénévole aux vieilles charrues?
Alors, les missions, alors, il y a toutes sortes de missions possibles. Alors nous, dans le cadre de notre bénévolat au sein de l'IME, on est affecté aux entrées. Donc on scanne les billets et puis on met les bracelets. Mais par contre, en tant que bénévole, on peut aussi servir les repas, les boissons, ramasser les déchets, gérer les parkings. Par contre, nous, dans notre association, on ne fait que les entrées.
Est-ce que ça veut dire être bénévole pour toi?
C'est important de donner du temps pour les autres. Et puis, ça permet aussi de connaître de nouvelles personnes, de faire des rencontres, de créer du lien. On a le sentiment aussi de faire quelque chose de bien. Donc, c'est important. Et puis, moi, je répète encore, on récolte de l'argent. Enfin, les vieilles charrues nous donnent un peu d'argent chaque année parce qu'on est bénévole. Et donc, ça permet de faire des activités aux enfants de l'IME.
À partir de quel âge peut-on être bénévole?
Alors, on peut être bénévole à partir de 16 ans. Voilà. Mais il faut toujours, en fait, entre 16 et 18 ans, être accompagné d'un adulte référent.
Et enfin, la question piège, que veut dire Kerempuil?
Alors... Je ne sais pas, je suis désolée, oui, je ne sais pas.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec Jordan, Lorenzo, Jimmy, Mary, Vanessa, Libby, Mélissa, Kylian et Léa.
C'était une émission sur le thème de l'engagement. Bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle émission.
Au revoir.
L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.